ceux qui craindraient que le temps d'enseignement des enfants ne dure pas assez longtemps, je vous rassure, la prédication sera plus longue que d'habitude. C'est une blague. Ce matin, nous allons parler d'un péché, peut-être le plus facilement excusé parmi les chrétiens. L'orgueil. Peut-être ça vous étonne que je dise cela, mais je m'explique. Vous entendrez rarement dans une réunion de prière un chrétien confesser « Seigneur, je te demande pardon, car je suis adultère dans mes pensées. » Ou alors quelqu'un qui dirait « Seigneur, viens au secours de ma cupidité, je suis une vraie pince. » Par contre, vous entendrez plus facilement un chrétien confesser « Que Dieu me délivre de mon orgueil. » L'orgueil n'est pas un sujet aussi tabou que les questions d'argent ou les questions de mœurs. Et on le comprend bien finalement. On a tous en nous, pas quelque chose de Tennessee, mais une part d'orgueil. C'est donc plus facile à avouer. Mais je crois que nous faisons souvent fausse route concernant cette question de l'orgueil. Nous commettons, me semble-t-il, l'erreur du chat de Gueluc. Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. Pas que je pense que vous ayez la prétention d'être presque parfait. Comme moi, vous êtes bien trop modeste pour cela, n'est-ce pas ? Mais je crois que le chat pointe le problème de l'orgueil et de l'humilité. On voit finalement l'humilité comme une capacité à acquérir, une qualité à mettre à côté des autres, plutôt qu'une attitude à développer. Alors ce matin, j'espère que ce que nous allons voir dans le prophète Ésaïe va nous aider dans cette lutte contre le poison qu'est l'orgueil. Cela va nous aider à nourrir une saine détestation de celui-ci et nous offrir quelques pistes pour justement y résister. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le prophète Ésaïe et nous allons lire le chapitre 2. Alors, si ce matin vous n'aviez jamais ouvert le prophète Ésaïe avant de venir, vous aurez eu trois chapitres dans le même culte. Amen. En effet. Et le chapitre 2 est difficile. Il est difficile. Ésaïe, chapitre 2. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes. Et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple de Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. » Car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues. Et de leurs lances, ils feront des fossiles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Les devins y pullulent autant qu'en Philistie. On pactise avec l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or et de trésors sans fin. Il est plein de chevaux et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres fabriquées de leurs mains. Mais les hommes s'inclineront, ils seront humiliés. Ne leur pardonne pas. Réfugiez-vous dans les rochers et cachez-vous sous la terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux. L'orgueil humain sera brisé, car en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux pour qu'ils soient abaissés, contre les cèdres du Liban qui s'élèvent bien haut et contre tous les chênes des plateaux du Bazan. et contre les hautes montagnes, et contre les collines qui sont altières, contre toutes les tours qui sont très élevées, et toutes les murailles qui sont fortifiées, contre les vaisseaux au long cours et leurs denrées précieuses. Il courbera la fierté des humains, et il abaissera l'orgueil humain. Car en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré, et toutes les idoles disparaîtront ensemble. On se réfugiera dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque et de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or qu'ils se sont fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils se réfugieront dans les cavernes et dans les fentes des rochers à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est pourquoi, cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur ? Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Nous continuons donc ce matin notre série « Ceux qui comptent sur l'Éternel » avec cette promesse en toile de fond qu'on a entendue dans la première partie de notre culte. « Ceux qui comptent sur l'Éternel voient leur force qui se renouvelle. » J'espère qu'avec une telle promesse, on voit la nécessité d'apprendre vraiment à compter sur Dieu. Et ce matin, l'épisode de notre série pourrait s'intituler « Seuls ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui comptent vraiment sur lui, peuvent se garder du poison de l'orgueil et marcher dans la voie de l'humilité. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre texte ne nous ménage pas en ce qui concerne l'orgueil. Il ne nous le donne pas à voir comme un petit péché qu'on pourrait domestiquer, parce qu'après tout, personne n'est à l'abri. On le verra notamment dans la deuxième partie du message. Mais dans la première, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la solution. Ce qu'est finalement la véritable humilité. Non pas une qualité à ajouter à notre collier de perles à côté de toutes les autres, mais une attente confiante en l'intervention de Dieu dans un monde qui n'a pas d'autre solution que l'intervention de Dieu. Une attente confiante en l'intervention de Dieu. Alors bien sûr, j'en conviens, ça ne nous est pas dit comme ça dans le texte que nous venons de lire. Ésaïe, c'est une prophétie et le début du chapitre 2 répond au code de ce qu'on attend d'une prophétie. Il arrivera dans la suite des temps, à l'avenir. Alors, pour ceux qui veulent recreuser à nouveau ce qu'est une prophétie, je vous invite à réécouter le message de dimanche dernier qui nous donnait quelques autres pistes. Mais oui, cette idée de « voilà ce qui va se passer », c'est comme ça qu'on voit habituellement une prophétie et ça pourrait être pris comme un titre de tout ce qu'Ésaïe développe dans la première partie de son livre jusqu'au chapitre 12. Dans ces chapitres, il y a comme un va-et-vient entre le présent et l'avenir, entre tout ce qui ne va pas dans le royaume de Juda, tout ce que dénonce Ésaïe et tout ce que Dieu va faire en conséquence, et parfois de manière très lointaine, comme dans notre passage de ce matin. Il y a même comme un contraste entre la situation présente du royaume de Juda. Juda, c'est un tout petit royaume. Sur une période de temps, il s'illustre par toute leur tendance à s'éloigner de Dieu. On est dans ce qu'il y a de plus médiocre au niveau humain, quelque chose de petit qui se vante de grand et qui se plante totalement. Et de l'autre, on a ce caractère lumineux par lequel commence ce chapitre 2. Cette vision future avec une portée universelle qui concerne tous les hommes, toutes les nations, au-delà de ce qu'ils peuvent penser et imaginer. Alors, arrêtons-nous quelques instants pour regarder trois caractéristiques de cette fantastique vision d'Ésaïe et de voir en quoi elle nous aide par rapport à cette question par laquelle nous avons démarré, la question de l'humilité. Première caractéristique, la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les autres. Les montagnes jouaient un rôle important dans les religions orientales. Elles étaient un peu vues comme le point de contact entre le ciel et la terre, puisqu'elles étaient le point le plus élevé. Et c'est pour ça que les peuples avaient cette habitude d'y ériger des autels et des temples. Et vous trouvez ça comme un refrain, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, comme un piège pour le peuple d'Israël d'adorer Dieu sur les hauts lieux, parce que c'était une imitation de ce qui se pratiquait autour d'eux. Et Ésaïe voit ici à l'avance ce jour où une seule montagne fera disparaître toutes les autres, se dressera au-dessus de toutes les autres. C'est l'idée de cette suprématie de Dieu au-dessus de tout que nous avons chanté tout à l'heure. Tous verront que Dieu surpasse les autres croyances, que ces croyances sont insignifiantes, vaines, vides. C'est une manière d'affirmer que seule la foi des Israélites est valable. Une manière de présenter cette foi comme exclusive. Seul l'Éternel est Dieu. La suprématie de Dieu. Deuxième caractéristique, toutes les nations afflueront. Des peuples nombreux viendront. La vision d'Ésaïe est exclusive, un seul Dieu est Dieu, mais inclusive aussi. Elle s'adresse en fait à tous. On ne commence pas par l'idée de dire « si vous ne pensez pas comme Ésaïe, vous serez inévitablement détruits ». La prophétie dit « en fait, cette parole est pour tous les peuples ». Tous les peuples peuvent être au bénéfice du règne du Seigneur. On a l'impression, quand on lit l'Ancien Testament, qu'il nous parle justement exclusivement de l'histoire de ce petit royaume de Juda, de ses mésaventures. Mais son Dieu, à lui, n'est pas un Dieu étriqué. Il est bien le Dieu de toutes les nations. Son projet est et a toujours été que tous les peuples puissent être au bénéfice de la bonne nouvelle de son salut. De ce côté-ci de la croix, après le sacrifice de Jésus-Christ, nous voyons de quelle manière cette prophétie s'accomplit. Désormais, par l'Évangile, cette ouverture à toutes les nations, elles peuvent toutes marcher dans les voies prescrites par notre Seigneur, pas seulement le royaume de Juda. Mais nous avons besoin de revenir régulièrement sur cette pensée. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'Église, elle nous concerne. Notre mission est justement de prendre place dans cet élan d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Si vous avez l'habitude de souligner des versets dans vos Bibles, c'est pratique d'avoir des bibles papier pour faire ça, soulignez celui-là. Parce que c'est vraiment quelque chose que l'on veut renouveler dans notre vision cette année. Nous poser la question, comment Dieu veut que l'Église de Pharmoutier participe à ce grand remue-ménage parmi les nations, afin qu'elle participe à cette interpellation qu'on entend dans ce texte. Des nations qui se demandent les unes aux autres, « Venez, montons au nom de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. » Et on reviendra tout au fil des prochains mois sur comment nous allons essayer de trouver, nous, notre place dans cette vision d'Ésaïe. Enfin, troisième caractéristique de cette vision, la vision d'une paix universelle. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des fossiles. Alors, comme moi, vous n'êtes peut-être pas un expert en agriculture, j'ai dû chercher cette semaine ce qu'était un soc. Donc voilà ce qu'est un soc. C'est cet fer large et affûté que l'on plaçait sur les charrues. Là, c'est, vous ne voyez peut-être pas, il y a un petit numéro 25, c'est ce grand élément un peu rectangulaire qui avait pour but de fendre la terre pour la travailler et ensuite permettre le travail d'ensemencement notamment. Et vous le retrouvez sur les machines agricoles plus modernes. C'est l'élément du dessous, là, ces quatre éléments sont les socs que l'on peut monter sur nos tracteurs modernes. L'image est belle. Les armes de guerre sont à ce point inutiles qu'on les transforme en matériel agricole pour nourrir le peuple. Voilà un verset qui est plein d'actualité, n'est-ce pas ? On aspirerait à une telle conscience, prise de conscience à travers les nations. Mais notons bien qu'Ésaïe ne voit cette paix comme possible qu'à partir du moment où les nations accepteront de se soumettre à la volonté de Dieu. Toute paix, toute réconciliation n'est qu'une illusion si elle n'est pas initiée par le désir d'être fidèle à Dieu. Alors maintenant, essayons de bien saisir la situation. Parce qu'on peut se demander, mais quelle mouche a piqué Ésaïe pour nous parler de tout ça. Ésaïe a dénoncé, et c'était ce que nous avions vu la dernière fois, les tristes réalités de son temps. Il s'est élevé avec fougue contre l'injustice sociale de Juda, contre la politique sans foi ni loi des responsables, contre la religion hypocrite du peuple. C'était le message de la semaine dernière. Et quand on lit la suite, en apparence, il semble que Ésaïe ait prêché dans le vide. Rien n'a changé. Les puissances ont continué leur politique. La religion israélite ne s'est pas réformée. Les injustices ont perduré. Maintenant, imaginez que vous fassiez partie du peuple d'Israël et que vous vous dites « Mais moi, j'aime bien ce qu'il dit Ésaïe. Il a raison. Je veux vivre cela. Je reconnais mes péchés. Je veux compter sur Dieu. » Comment faire pour vivre cela? Comment vivre selon cette parole dans une société qui n'en veut pas? En fait, on ne peut rien faire. On n'a pas la capacité de changer le monde, la société dans laquelle nous vivons. Et c'est toute la puissance de cette vision d'Ésaïe. Le seul qui puisse faire quelque chose, c'est Dieu. Et il interviendra. Ésaïe invite ceux qui comptent sur l'Éternel à vivre l'avenir proche qui s'annonce pas très reluisant, pas très enthousiasmant, à la lumière de cette lucarne qu'il vient d'ouvrir. Même si le présent est moche, Ésaïe fait retentir ce petit refrain. Il n'en sera pas toujours ainsi. C'est l'évangile avant l'heure. L'espérance qui nous permet de ne pas nous décourager dans un monde à la dérive, mais de nous attacher aux promesses de Dieu. Il va intervenir. Et nous, nous pouvons dire, il a commencé à intervenir en Jésus-Christ. Voilà, en quelque sorte, le point de départ de toute humilité. L'humilité ne consiste pas, en fait, à nous dévaloriser, ou à valoriser l'autre, mieux que nous, ou alors à être critique avec tout ce que nous pouvons faire. La véritable humilité se nourrit de cette vision de Dieu. Nous ne boxons pas dans la même catégorie. Dieu peut faire sortir des ténèbres la lumière. Moi, on me donne 2 silex, je suis incapable d'en faire sortir une étincelle. Et pourtant, il paraît que ça marche. Dieu ne boxe pas dans la même catégorie. Mais Dieu ne fait pas cela sans nous. Il nous associe à son œuvre incroyable. C'est de Sion et de Jérusalem, c'est-à-dire de son peuple, que sortira la parole de l'Éternel. Oui, l'homme est incapable de produire par lui-même des bienfaits durables, solides, décisifs. On le voit à travers toute l'histoire du salut dans la Bible, on le voit autour de nous. Et il ne s'agit pas, en disant cela, de nous dédouaner comme si nous n'avions rien à faire et juste à attendre que Dieu agisse, c'est pas ça. Mais de saisir que nous sommes un outil entre ses mains. Le soc de la charrue. Et voilà la pépite qui est devant nous par rapport à cette question de l'humilité. En apprenant à compter sur l'Éternel, nous pouvons alors nous réjouir de ce que nous accomplissons. Parce que nous sommes alors délivré du piège. Nous en attribuer la gloire. Seuls ceux qui comptent sur l'Éternel peuvent valoriser ce qu'ils font sans élever ce qu'ils sont. Seuls ceux qui comptent sur l'Éternel peuvent valoriser ce qu'ils font sans élever ce qu'ils sont. Ils savent que le vrai héros, c'est Dieu. Voilà le commencement de toute humilité. Alors, si nous avons associé ces premiers versets qui nous parlent d'espérance à l'humilité, c'est parce que les versets d'après eux nous parlent de l'autre binôme, désespérance et orgueil. Le nœud de toute la suite de ce chapitre, c'est l'esprit de supériorité qui rôde en nous, le poison de l'orgueil. Et je vous propose d'approfondir deux enjeux qui se cachent derrière ce poison. Tout d'abord, le poison de l'orgueil nous emmène dans un bras de fer, et là aussi, on ne boxe pas dans la même catégorie, avec Dieu. Un bras de fer qui a un enjeu ici et maintenant. Dans les versets 6 à 11, on sent qu'Ésaïe met ses tripes sur la table. Il y a des émotions, une colère aussi. Il souligne, « Dieu, tu as abandonné ton peuple. » Mais ce n'est pas comme si il le voyait comme une plainte. Il lui dit, « Non mais ne leur pardonne pas, tu as vu ce qu'ils ont fait. » Ésaïe n'est pas impassible aux paroles que Dieu a mises dans sa bouche. Parce que Dieu n'est pas impassible avec l'endurcissement de son peuple. Il ne voit pas nos errements, nos petites trahisons, nos petites désobéissances avec indifférence. Nous nous retrouvons dans un bras de fer avec Dieu. Un bras de fer entre notre responsabilité et ce que Dieu fait. C'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Aux rébellions humaines s'associent des réponses déroutantes de la part de Dieu. Par exemple, Pharaon. Pharaon qui refuse de reconnaître derrière les miracles de Moïse la main de l'Éternel. Le texte biblique indique que Pharaon endurcit son cœur et il affirme aussi qu'l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul affirme que les hommes ont refusé de reconnaître Dieu, mais que c'est Dieu qui les a livrés au penchant de leur rébellion. Et ici, Ésaïe affirme que le peuple de Dieu a imité dans toutes ses largeurs les superstitions des peuples voisins, qu'il s'est confié en ses richesses, en sa puissance militaire, et que l'Éternel a abandonné son peuple. Qu'est-ce que cela signifie, ce bras de fer là, entre la responsabilité humaine et l'action de Dieu ? Pas que nous sommes des marionnettes, que nos choix ne sont pas vraiment nos choix. Je ne peux pas dire, mais c'est parce que Dieu m'a abandonné que je lui désobéis. Par contre, cela signifie que nos choix influencent bien plus que nous nous en rendons compte notre relation avec Dieu. Dans nos désobéissances, il se passe bien plus que les conséquences que nos yeux arrivent à voir. Prenons l'exemple du mensonge. Pourquoi est-ce qu'on ment à quelqu'un ? Une possibilité, c'est garder une bonne image de soi. Par exemple, mon patron me demande si j'ai bien fait les dossiers qu'il m'avait demandé, ou un ami me demande pourquoi je suis arrivé en retard. Et si je n'ai pas d'excuses valables, je suis tenté de mentir. Pourquoi faire ? Pour garder une bonne image de moi. Notre image, dans ce moment-là, est comme si c'était le plus important de tout. Alors on peut mentir pour tout un tas d'autres raisons. Quelqu'un qui nous demande de l'argent, on dit qu'on n'en a pas juste pour se débarrasser de la personne. Ce que je veux souligner, c'est que derrière les conséquences souvent désastreuses du mensonge, un mensonge finit souvent par être découvert, se joue un enjeu bien plus profond, un bras de fer avec Dieu. Quand nous mentons, nous sommes en train de dire « Ma loi vaut mieux que la tienne. » Je préfère ma loi qui dit qu'il faut que je garde une bonne image de moi que celle où tu me dis que, en fait, je ferais mieux d'être transparent et de dire ce qui est réellement. Ainsi, on n'est pas juste en train de détruire nos relations avec les autres. Nous sommes aussi en train de saper notre confiance en la toute sagesse de Dieu. Derrière nos désobéissances, nos choix qui nous poussent loin de la volonté de Dieu, il y a dans ma vie l'enjeu de la suprématie. Qui a raison ? Qui est réellement sur le trône ? Moi ou Dieu ? Alors soyons assurés que Dieu ne laissera pas faire. Et c'est toute l'image du bras de fer. Il n'est pas indifférent face à cette lutte. Et on a là, justement, des réactions où on voit un Dieu qui n'est pas indifférent à la manière dont son peuple le traite. Et oui, certaines de ces réactions peuvent nous paraître vertigineuses, comme ce « Dieu a abandonné son peuple ». Mais n'oublions pas que chacun de ces bras de fer que nous lisons dans l'Ancien Testament fait partie du sillon que Dieu a tracé jusqu'à la croix. Et nous, nous pouvons nous appuyer sur une autre promesse. Hein. Et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde, même quand nous sommes en bras de fer avec lui. Premier enjeu donc, un enjeu qui dépasse ce que nous arrivons à voir dans nos relations les uns avec les autres. Il y a un enjeu dans cette suprématie, dans cet orgueil, qui est vraiment roi sur le trône. Mais soyons aussi conscients que l'enjeu n'est pas que ici et maintenant. L'enjeu est aussi éternel. Ésaïe poursuit, car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, tous les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés. Beaucoup parmi les contemporains d'Ésaïe attendaient ce jour du Seigneur comme une délivrance, ce moment où Dieu va faire irruption et comme au temps de Moïse, de Josué, balayer les ennemis du peuple. Mais cette attente, en apparence confiante, reposait en fait plus sur l'arrogance que sur la véritable attente que Dieu intervienne. Le peuple de Dieu allait adopter les coutumes des nations environnantes et méritait donc le même jugement qu'elles. Ésaïe prévient dans tout ce passage-là qui nous est décrit en long, en large, en travers, avec ses paroles un peu effrayantes. Oui, le jour du Seigneur sera un jugement terrible. Veillons donc sur nos choix. Ce jour est dépeint comme un grand tremblement de terre, hein, avec cette image de « on cherche comme un refuge au milieu des ruines, dans les creux des montagnes », une image parlante pour les contemporains d'Ésaïe qui avaient vécu un tremblement de terre quelques années auparavant, traumatisant. Une image parlante de la vaine prétention humaine, justement, qui tout d'un coup se trouve face au Dieu vivant en train d'essayer de se dérober à sa face. Une image qui préfigure à ce point le jugement que Jean la reprendra dans sa Apocalypse pour décrire la terreur éprouvée par tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant lui. Toute chose dans laquelle nous nous confions autre que l'Éternel sera un jour anéantie. Voilà qui nous appelle à veiller sur nos propres voies et sur nos propres choix. Si le jour du Seigneur est la menace la plus grande que nous ayons à redouter, alors forcément, elle nous pose cette question. En quoi plaçons-nous notre confiance suprême? En Dieu ou en nous-mêmes? Alors c'est la question décisive au moment de choisir justement de nous confier dans le salut de Dieu. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix, vous avez entendu les avertissements d'Ésaïe ce matin. C'est un choix urgent à prendre. Mais soyons lucides. Cette question n'est pas réglée une fois pour toutes parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Reconnaissons que nous ne sommes pas vraiment hermétiques à la société dans laquelle nous vivons. Et quel est là un mantra de ce monde ? Aie confiance en toi. On entend ça à tout bout de champ. Aie confiance en toi. C'est la clé pour déplacer les montagnes, accomplir des choses extraordinaires, s'accomplir soi-même. Aie confiance en toi. Alors c'est vrai que parfois le manque de confiance est aussi un poison redoutable et peut handicaper toute une vie. Et il est utile de méditer qu'est-ce qui nous amène à manquer de confiance. Mais ce passage nous met en garde contre nos croyances modernes. La solution biblique n'aie pas, face à nos peurs, nos manques d'assurance, nos géants à terrasser, une plus grande confiance en soi, mais une plus grande confiance en Dieu. La conclusion d'Ésaïe ne laisse apparaître aucune ambiguïté. C'est pourquoi cessez de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle. Quelle est sa valeur ? Ne croyons pas que le bonheur, la joie, la sécurité viendront par le développement de la confiance en soi. Déplacer les montagnes, dépasser sans cesse nos limites, ne nous laisser arrêter par rien. Parce que cela reviendrait, mes amis, à nouveau à être notre propre Dieu. C'est pas comme ça que Dieu veut fonctionner avec nous. En voyant Jésus prendre le relais de son ministère, ministère d'appel à la repentance, Jean-Baptiste a eu cette fantastique parole. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette petite phrase, à elle toute seule, résume comment ceux qui comptent sur l'Éternel peuvent se garder de l'orgueil, en laissant à Dieu la suprématie dans leur vie. Cela signifie accepter les limites que Dieu me donne, accepter que nous n'allons peut-être pas accomplir des choses extraordinaires, en tout cas pas par nous-mêmes, mais que nous sommes appelés à rejoindre celui qui accomplit déjà des choses extraordinaires. Cela signifie lui laisser prendre toute la place dans notre vie, accepter le renoncement, la persécution, la souffrance parfois. Que Dieu nous aide à résister au piège de l'orgueil, qu'il nous aide à suivre ce chemin de l'humilité qui accepte qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vous invite à méditer ces paroles de Jean-Baptiste à travers ce chant qui nous pousse justement à reconnaître la suprématie de Dieu.